Ora la parola a Sylvie Trosa, segretario generale del Ministero degli Affari Sociali e Lavoro francese. Sì, prego.
Je vais parler en français, donc je ne sais pas si on me comprend. Ça va, pas de problème? Bon. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser, je ne pense pas que je vais utiliser mes slides, parce que je vais essayer de m'adapter au débat que nous avons eu depuis 2 jours. Ma première remarque sera de dire qu'on ne peut, si vous voulez, quand on a une fonction publique, qu'on ne peut la faire évoluer que dans le contexte historique et national dans lequel on est. Par exemple, en France, s'il prenait l'envie, par exemple, comme au Royaume-Uni, de diminuer de moitié les effectifs d'un ministère, il y aurait le lendemain matin une grève générale avec tous les citoyens soutenant les fonctionnaires. Donc, chez nous, ce serait impossible. Par ailleurs, je crois que par rapport à nos... Et puis, la deuxième chose, c'est que les fonctionnaires en France tiennent beaucoup à une formation de nature nationale. À tel point d'ailleurs que lorsque nous avons fait 3 fonctions publiques, la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, aujourd'hui il y a un mouvement de retour en arrière pour avoir des systèmes de formation communs aux 3 fonctions publiques et plus de mobilité entre les 3 fonctions publiques. Alors, si je compare, par exemple, par rapport à la fonction publique anglaise, la France souhaite assez largement garder une fonction publique statutaire. Pourquoi ? Parce qu'elle estime qu'il y a des spécificités dans le travail des fonctionnaires, notamment la relation politique et notamment l'arbitrage dans la diversité des intérêts des usagers, qui sont des choses qui s'apprennent avec le temps, et où des contractuels, nous semble-t-il, n'ont pas forcément l'expérience suffisante pour s'attacher à ces questions. Mais par rapport à ce qu'a dit Giancarlo Senatore ce matin, c'est vrai qu'il y a un mouvement où nous voudrions également avoir des compétences. Ça veut dire qu'en fait, nous n'allons pas abandonner le statut pour les compétences, mais essayer d'avoir les deux. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire, finalement, dans sa vie, il va avoir, comme toute personne, 2 ou 3 vies, 2 ou 3 métiers, et qu'il faudra, au départ, que le contrat soit clair, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire, durant sa carrière, doit se requalifier. Pour cela, une des propositions faites est de créer, comme en Suède, une agence de requalification des fonctionnaires qui leur permettra, en cours de carrière, d'acquérir des compétences nouvelles. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas basculer simplement vers un système de compétences ? D'abord, pour la première raison que j'ai dite, il y a quand même la gestion du politique et la gestion des usagers, mais aussi parce que les compétences deviennent de plus en plus volatiles. Donc il y a un danger à ne recruter des gens que sur des compétences qui ne peuvent durer qu'un, 2 ou 3 ans. Donc il faut un équilibre entre les qualités demandées à l'ensemble des fonctionnaires d'un même niveau dans la fonction publique et des compétences spécifiques. On ne peut pas basculer ni seulement d'un côté ni de l'autre. J'espère que je suis claire. Ça va ? Bon, merci. Bon, on ne sait jamais, hein. Voilà. Alors, maintenant, je dirais, vers quel avenir essayons-nous d'aller ? Alors, premièrement, il est évident, c'est d'aller vers une fonction publique moins rigide, ce que l'on pourrait appeler un nouveau contrat social. Hier, on m'a demandé à juste titre, au fond, le nouveau New Public Management, comment on fait dans les pays latins ? C'est une très bonne question, et une question pas facile. Alors, le nouveau contrat social, qui est d'ailleurs dans la nouvelle loi budgétaire, ce serait de dire, au fond, qu'on demande plus aux fonctionnaires, mais qu'on les traite mieux, pour résumer rapidement. On demande plus pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, c'est le fonctionnaire, à travers ses syndicats, qui choisissait son lieu de travail. C'est-à-dire, par exemple, si vous étiez un spécialiste de la vigne dans le sud de la France et vous vouliez aller dans le nord de la France où il n'y a pas de vigne, personne ne peut vous en empêcher. Bon. Donc ça, ce serait terminé. Donc il y aurait une garantie de l'emploi, mais pas de garantie de la carrière, ce qui est une nuance. Et on demanderait aux fonctionnaires d'être évalués sur leurs résultats. Donc on leur demande plus. Mais quand on demande plus, il faut une contrepartie. La contrepartie, ce serait fondamentalement de les traiter mieux. Parce que lorsque l'on compare la façon dont sont traités les fonctionnaires par rapport à ce qui se passe dans les entreprises, on peut dire qu'ils sont relativement maltraités. On s'occupe peu de leurs conditions de travail, on s'occupe peu de leur faire une gestion individuelle des parcours de carrière, il y a peu de coaching, il y a peu d'aide à la prise de poste, d'aide à la requalification et d'aide à la formation. Donc le nouveau contrat social, ce serait d'avoir moins de droits automatiques, mais par contre, une vraie gestion individualisée des parcours de carrière avec des conditions de travail décentes. Voilà. Alors maintenant, je vais parler un peu des sujets qui fâchent, c'est-à-dire comment on y arrive. Et comment on y arrive, ça pose le problème à la fois de la politique, dont on n'a pas parlé, ce qui m'a étonnée, parce que somme toute, on travaille pour des hommes et des femmes politiques. On a fait comme si la fonction publique, c'était une bulle qui vivait toute seule. Mais quand même, on travaille pour des gouvernements. Même si on est indépendant, dans notre pensée et dans notre parole, fondamentalement, il me semble, la fonction publique est là pour mettre en œuvre les objectifs du gouvernement. Ou bien j'ai rien compris. Bon. Alors parlons d'argent et parlons de politique, c'est-à-dire des choses qui fâchent. Je ne parlerai pas des autres choses qui fâchent. Alors la première chose, c'est que l'important, me semble-t-il, dans toutes les fonctions publiques, c'est de retrouver des marges de manœuvre financières. Et les marges de manœuvre financières, il sera difficile de les retrouver en gardant exactement le même nombre de fonctionnaires. Je pense que nous avons tous un peu trop de fonctionnaires, mais évidemment, c'est la chose qu'il ne faut pas dire. Alors, comment on gère ce problème? Il faut le faire, mais pas le dire. Je pense que le moyen le plus avéré à ce niveau, c'est d'avoir au sein des ministères un vrai débat sur les missions, en sachant quelles sont les missions prioritaires et les missions les moins importantes, ou que l'on décale plus tard dans le temps, ce qui permettra éventuellement de réorganiser les structures et surtout d'aller vers un modèle où l'administration est plus maître d'ouvrage, purchaser, que provider, ce qui au fond serait relativement logique, parce que la provision de services est souvent mieux effectuée par les collectivités locales ou par le secteur privé. Si on va vers ce modèle, c'est-à-dire si l'on part des missions et de ce que l'on attend de l'administration, je pense qu'il sera possible de gérer des diminutions d'effectifs de façon non conflictuelle. Par contre, si vous dites immédiatement « on va diminuer de temps, de gens, les services », vous avez immédiatement une grève. Ça n'est pas légitime. Donc je pense qu'il est vraiment très important, et ça n'a pas été trop souligné pendant le colloque, de lier la gestion des ressources humaines avec ce que l'on appelle une révision et une évaluation des missions de chaque collectivité publique et probablement une évolution de l'administration vers un maître d'ouvrage plus que vers la provision de services directement. Voilà. Alors, le deuxième point pour le nouveau contrat social, me semble-t-il, qui est très important, et là, je crois que nous n'en avons pas beaucoup parlé non plus, ce sont les valeurs. Aujourd'hui, dans tous les systèmes de nouveau management public, il est certain que nous avons des objectifs. Mais au-delà des objectifs, il y a la question des valeurs, c'est-à-dire ce que l'on attend des fonctionnaires. Par exemple, en France, lorsque la LOLF a dit que nous irions vers une culture des résultats, c'est très, très mal passé. Et ça passe toujours très mal. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que quand on entend culture des résultats, on peut entendre des tas de choses. On peut entendre le fait que les fonctionnaires ne travaillent pas assez, qu'ils n'ont pas assez de résultats. On peut entendre le fait que les résultats qu'ils ont ne sont pas les résultats que l'on voudrait, c'est-à-dire qu'ils s'autodéterminent trop largement et ne sont pas assez attentifs aux souhaits des ministres. On peut entendre le fait qu'ils ne sont pas assez proches des citoyens. Donc on peut entendre des choses très diverses. Or, le problème, c'est que personne, ni les directeurs du personnel, ni le gouvernement, n'a dit ce que voulait dire culture des résultats. Et quand on laisse une ambiguïté sur les valeurs, On ne peut pas motiver les fonctionnaires. Il faut leur donner du sens, de l'espoir dans leur action. On ne motive pas les gens sur des bases négatives. On les motive en leur donnant du sens. Il me semble que sinon, vous allez perdre vos meilleurs fonctionnaires et vous allez aussi perdre par rapport aux politiques. Parce que qu'est-ce qui se passe dans tous nos pays? Le politique a tellement l'impression qu'on ne lui répond pas qu'il monte des cabinets ministériels qui sont maintenant suffisamment importants pour faire le travail de l'administration. Et à terme, il y a un vrai danger que l'administration dépérisse et ne serve plus à rien. Alors là, je suis un peu dure, mais je le pense vraiment. Dans mon ministère, il y a 50 personnes au cabinet du ministre et le ministre pourrait parfaitement fonctionner avec ces 50 personnes en sous-traitant le reste du travail. Donc là, je suis un peu provocante, mais pour vous dire qu'on ne peut pas, si vous voulez, travailler sur la fonction publique sans réfléchir aux relations avec l'autorité politique et au sens que l'on attend de l'action des fonctionnaires. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais enfin je l'ai dit. Alors maintenant, la question du comment. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors la question du comment, moi je crois qu'elle est très simple. C'est, il faut que nous devenions tous des directeurs de ressources humaines. Tous. C'est-à-dire que ce sont les responsables de résultats qui doivent avoir la responsabilité de la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire de la masse salariale, des salaires, des recrutements, des métiers, des besoins, de la formation, etc. C'est à eux de faire ce boulot et ne pas le laisser aux directions de gestion des ressources humaines. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a des résultats à atteindre, eh bien on angoisse. Le seul moyen de les atteindre, c'est la ressource humaine. Et donc on fera tout pour bien traiter, requalifier ces agents et les mettre en situation de bien travailler. Le seul moyen de rendre la gestion des ressources humaines effective, c'est d'avoir des managers qui sont vraiment, comme on dit en anglais, accountable de leurs résultats. Et ça, je l'ai vécu pendant 10 ans dans les pays anglo-saxons. Quand vous, en tant que manager, devez vraiment rendre des comptes, je peux vous dire, votre souci numéro un, c'est le personnel. Quand vous ne devez pas rendre de comptes, vous vous fichez de votre personnel. Excusez-moi de cette vulgarité. Alors, ça, je pense que vraiment, il faut le souligner. Alors, que deviennent les directions de ressources humaines? Eh bien, leur rôle, dans ce cas-là, n'est pas diminué. Il faut qu'elles se professionnalisent et qu'elles soient capables d'apporter un soutien technique de conseil de très haut niveau aux line managers, c'est-à-dire aux managers responsables des ressources humaines. Voilà, ça c'est le premier comment. Le deuxième comment, est-ce que j'ai encore 2 minutes, Monsieur le Président, ou c'est trop? Il dort, le Président. Bon, alors je me prends 2 minutes s'il ne dit rien. La question difficile, c'est de savoir, c'est celle de l'évaluation, parce que sans évaluation, il est difficile de mettre le mouvement en marche. Et la question est vraiment, sur quel type de résultats va-t-on évaluer les gens? Certes, on va les évaluer sur ce qu'on appelle en anglais les outputs, c'est-à-dire fondamentalement leurs activités. Mais il me semble que ça ne suffit pas, parce qu'il faut que les fonctionnaires soient sensibles aussi aux outcomes, c'est-à-dire aux effets réels de leurs activités sur la société. Ils ne sont pas là simplement, comme on l'a dit, pour fournir un service de qualité aux usagers, mais aussi pour faire un changement dans l'efficacité sociale et économique de l'action de l'administration dans la société. Quand on a des fonctions publiques qui rassemblent à peu près 20% de la population active, on ne peut pas se permettre une fonction publique qui n'est pas consciente des enjeux financiers, économiques et sociaux globaux. Ça n'est pas un monde à part. C'est pour cela qu'il me semble qu'on ne peut développer la gestion des ressources humaines qu'en développant en même temps l'évaluation des politiques publiques. Alors comment on fait au niveau individuel? Eh bien, l'expérience montre que personne n'est à soi seul responsable d'un résultat. C'est souvent une équipe, c'est souvent des facteurs complexes. À ce moment, l'évolution vers laquelle nous allons en France, c'est de ne pas évaluer les fonctionnaires sur des résultats simplement quantitatifs, mais sur leur capacité de contribuer aux résultats. Et les résultats peuvent être aussi qualitatifs. Ça peut être l'esprit d'équipe, la coopération entre les administrations pour servir l'usager, la coopération entre administrations pour délivrer un meilleur service. Mais ceci, et ça c'est très important, suppose quelque chose aussi dont nous n'avons pas assez parlé, c'est la confiance. Les systèmes latins ne sont pas des systèmes basés sur la confiance, mais des systèmes basés sur la défiance. Nous avons des systèmes juridiques qui partent toujours de l'idée de l'exception ou de la fraude. Et ça, c'est très important. Il n'y aura pas de gestion des ressources humaines dynamique s'il ne s'établit pas des rapports de confiance entre les supérieurs et les gens qui travaillent pour eux. Parce que vous n'aurez jamais des systèmes d'évaluation mécanique qui vous diront « les résultats ont augmenté de X%, donc c'est telle personne qui en est responsable ». Il y aura toujours nécessairement une interface de débat humain. Or ça aussi, c'est quelque chose que les systèmes latins n'aiment pas trop, c'est le face-à-face sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce que c'est toujours difficile, douloureux, et c'est plus facile de se noter et de ne pas se voir. Ok ? Alors, on parle beaucoup, mais on ne se parle pas. C'est une différence. Donc, l'idée, c'est de parler moins, mais de se parler. Alors, le troisième point, me semble-t-il, dans le comment, c'est de faire très attention à bien définir le niveau d'influence de chaque agent et de l'évaluer sur la capacité qu'il a d'influencer les résultats. Et pour cela, il y a une très belle expression en anglais qui s'appelle « capacity development ». C'est-à-dire pour nous d'agir et d'avoir un plan de développement des capacités de chaque individu, je dis bien de chaque individu, pour qu'il puisse mieux contribuer aux résultats. La raison en est que l'essentiel de nos politiques publiques, aujourd'hui, elle est partagée entre différentes entités publiques. Personne n'a la propriété d'une politique publique. Souvent, une politique publique, c'est l'État, c'est Bruxelles, c'est la collectivité locale, c'est la région. Donc cela suppose des capacités de négociation, de partenariat, qui sont nouvelles pour les fonctionnaires, qui n'ont rien à voir avec la procédure. Donc il y a vraiment un nouveau métier à apprendre si l'on veut être efficace dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et c'est en cela qu'il faut porter attention à développer ces capacités relationnelles qui permettent de faire interagir les différentes autorités publiques ensemble. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un message sur, un nouveau contrat social, aussi un nouveau contrat entre le supérieur et son agent, qui soit un contrat de face-à-face, de confiance et pas de blâme, et un contrat de partenariat qui permette aux différentes entités publiques de travailler ensemble. Merci.
Bene, grazie.